Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13:8. Lettre circulaire, avril 2015. Je salue très cordialement, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les frères et sœurs sur toute la surface de la terre, avec l'écriture d'Hébreux 9:28. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. La seconde venue de Christ, et son retour promis. Jean 14, 1 à 3. Il revient pour tous les rachetés qui l'attendent. Il revient pour tous les rachetés qui sont prêts. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, Matthieu 25, 10. Il revient pour tous les rachetés qui aiment son avènement. Et tous ceux qui auront aimé son avènement recevront la couronne de justice promise. 2 Timothée 4, 8. Le retour de Christ est très proche. Ce qui est important est de retrouver réellement, en chacun de nous, ces trois critères. L'attendre, être prêt, et aimer son avènement. Nous vivons dans le temps de l'appel à sortir, conformément à 2 Corinthiens 6, 14 à 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. L'ensemble de la prophétie de la fin des temps s'accomplit devant nos yeux. C'est le temps duquel le Seigneur dit. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc 21, 28 à 36. Par grâce, nous avons l'orientation biblique par la parole prophétique et nous pouvons voir clairement les signes des temps dans tous les domaines. Le cri pour réveiller du sommeil spirituel tous les croyants bibliques retentit maintenant sur toute la terre et devient de plus en plus fort. Voici l'époux. Levez-vous. Préparez-vous. Allez à sa rencontre. Matthieu 25, 1 à 10. C'est le message qui précède maintenant la seconde venue de Christ. Les croyants sont les vierges qui ont nettoyé leurs lampes. Les vierges sages ne se soucient pas uniquement d'avoir les lampes, c'est-à-dire la lumière, la clarté, mais pour eux le plus important est la préparation totale par la foi et l'obéissance, et d'être remplis de l'huile de l'esprit. Un compositeur a formulé ainsi dans son cantique. Seulement des vases, saint maître, toutefois remplis de ta puissance. Maintenant, par l'action de l'esprit a lieu l'union de l'épouse terrestre avec l'époux céleste dans l'amour absolu et en plein accord avec chaque parole de Dieu. Je serai ton fiancé. Dans, Osée 2, 21, le Seigneur a promis. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Ceci est l'offre de grâce du Rédempteur pour les racheter. À la croix de Golgotha, l'époux a payé le prix du rachat par amour pour l'épouse. Jean 3:16. Par le sang versé de la nouvelle alliance, Matthieu 26, 26 à 28, l'Église a été rachetée. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1:7. Comme le côté d'Adam fut ouvert pour en faire sortir Ève, et qu'ensuite elle lui fut présentée, Genèse 2, de même le côté du Rédempteur a été ouvert à la croix, Jean 19, 34, et les rachetés sont son Église épouse, qui le rencontrera dans les airs lorsqu'elle montera au repas des noces. 1 Thessaloniciens 4, 17. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, 45. Tous les fils et les filles de Dieu sont, membres de son corps, chair de sa chair, et os de ses os. Paul écrit plus loin. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Éphésiens 5, 30 à 32. Comme lors des fiançailles, l'homme devient l'époux et la fiancée devient l'épouse, ainsi en est-il d'une vraie et réelle conversion à Jésus-Christ, qui est un, oui, envers lui, et alors le Rédempteur devient l'époux céleste et les rachetés deviennent son épouse. Des fiançailles ne se font pas avec une seule personne, elles ne peuvent se faire que lorsque deux se rencontrent, que leur cœur bat plein d'amour l'un pour l'autre et qu'elle a dit, oui. Tous les rachetés, en qui la parole en tant que semence est semée, Luc 8, 11, naissent de nouveau pour une espérance vivante. 1 Pierre 1:3. Ils reçoivent la nature divine du Rédempteur et la vie éternelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 14 à 21. Celui qui appartient à l'Église épouse a une relation personnelle avec le Seigneur, comme des fiancés l'un envers l'autre, et il écoute ce que l'époux dit à son épouse bien-aimée au travers de sa parole, et le met en pratique. Ainsi s'accomplit. Et son épouse s'est préparée. Ceux qui appartiennent à l'Église épouse seront prêts lors du retour de l'époux. Ils l'aiment et attendent impatiemment d'entrer avec lui aux noces, comme il est écrit. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19, 7 à 9. Par le ministère du prophète promis, le Saint-Esprit a rendu la parole écrite parole révélée, pour tous ceux qui croient véritablement. Et plus encore, en tous ceux qui croient et appartiennent à l'Église épouse, le message parole produit ce pourquoi il a été envoyé. Ésaïe 55, 11, Romains 10, 16 et 21. Jean-Baptiste s'écria, « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne, est parfaite. » Jean 3, 29. Jean était plus qu'un prophète, il était un prophète promis ayant une mission toute particulière. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Matthieu 11, 9 et 10. Aucun prédicateur n'a parlé aussi souvent au sujet de l'épouse de Christ, de la préparation et de l'enlèvement, que l'homme de Dieu, William Branham. Comme cela est connu de tous, l'appel divin lui a été adressé le 11 juin 1933. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue de Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Son ministère, qui était relié directement au plan du salut de Dieu, a été profitable et de même aussi sa joie sera parfaite, comme celle de Jean-Baptiste. Maintenant c'est accompli. Et l'Esprit et l'Épouse disent, « Viens !» Et que celui qui entend dise, « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Apocalypse 22, 17. Mais celui qui, par l'enthousiasme qu'il ressent par ce que Dieu a dit et a révélé, veut rendre hommage à un ange ou à un serviteur de Dieu au lieu de donner gloire uniquement à Dieu, comme Jean sur l'île de Patmos, devra entendre les mêmes paroles qui ont été adressées autrefois à Jean. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Apocalypse 22, 9. Un coup d'œil au commencement, afin de bien comprendre la fin. Par le ministère de Jean-Baptiste ne s'est pas accompli seulement Malachie 3, 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Mais également la première partie de Malachie 4, 6, à savoir. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. C'est ainsi qu'a parlé l'ange à son père Zacharie. Pour amener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, 16 et 17. C'est cela dont il était question au commencement, par le ministère de Jean-Baptiste, et c'est ce dont il est question maintenant aussi, par le ministère final, c'est-à-dire de préparer le chemin au Seigneur et de lui préparer un peuple bien disposé. Dans tout l'Ancien Testament, on parle des pères à qui Dieu a donné les promesses de l'Alliance. Romains 9, 4 et 5. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Hébreux 1, 1 et 2. Dans Actes 13, 32 et 33, nous lisons. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Chaque fois que des événements se produisent en rapport avec l'histoire du salut, s'accomplissent les promesses de Dieu qui y sont reliées. Dans Malachie 4, 5, il est écrit. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. La seconde partie du verset 6, à savoir que, le cœur des enfants de Dieu sera ramené à la foi des pères, s'accomplit dans notre temps. C'est pourquoi notre Seigneur, après le ministère de Jean-Baptiste, a mis l'accent sur la promesse en disant « Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. » Matthieu 17, 11. C'est ainsi qu'il est aussi écrit dans Marc 9, 12. Aujourd'hui, il nous dirait « Élie est venu, le prophète a apporté le message divin, et les enfants de la promesse croient comme l'Écriture dit. et ils sont ramenés à l'enseignement et à la vie dans l'état d'ordre spirituel, comme l'Église primitive au commencement. C'est le but du message divin, que dans les croyants bibliques, dans l'Église épouse, tout, absolument tout soit ordonné de manière biblique et soit restauré. Tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse reconnaissent la raison pour laquelle la parole prophétique, qui ne permet aucune interprétation, a été révélée dans ce temps. Elle luit comme une lumière qui brille clairement dans l'obscurité spirituelle. 2 Pierre 1, 19 à 21. Uniquement ce qui est réellement écrit dans la Bible est biblique et convient pour la prédication, et est par conséquent destiné pour la foi des élus. L'Église est bâtie sur le fondement authentique des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, 20. C'est pourquoi le message est « retournez à la parole, retournez au commencement, retournez à l'enseignement pur des apôtres, retournez à toutes les expériences du salut. » Dans 2 Corinthiens 6, 14, 18, des paroles très sérieuses sont adressées au peuple de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Le dernier message est relié à l'appel à sortir et à la séparation, ainsi qu'à la directe restauration et à la préparation. Premièrement, nous devons sortir, ensuite nous pouvons entrer. Son retour promis est à la porte. Matthieu 24, 33. Notre Seigneur et Rédempteur a dit, en rapport avec ce qui doit arriver dans la dernière période, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Luc 21, 28, et en même temps, il donne l'avertissement. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Verset 36. Nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques envers Israël, envers les nations, dans le monde entier et spécialement dans l'Église, et nous pouvons sans cesse nous exclamer. Aujourd'hui telle et telle écriture se sont accomplies devant nos yeux. Cela nous rappelle ces paroles. Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Jean 16, 4. Amen. Maintenant, il s'agit de la chose principale, à savoir l'union totale de l'épouse et de l'époux. Il n'est utile à aucun croyant de voir seulement les signes des temps, mais les expériences bibliques de la justification. Romains 5, 9, de la sanctification, 1 Thessaloniciens 5, 23. Du baptême du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 13, etc., doivent devenir à présent, aussi réels qu'au temps des apôtres. À la fin, l'amour parfait de Dieu, tel qu'il a été manifesté à la croix de Golgotha par la réconciliation et le pardon, devra se manifester également dans tous les réconciliés qui ont expérimenté leur pardon, car ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15, 17. Lorsque les véritables croyants seront devenus un cœur et une âme, les pluies de l'avant et de l'arrière saison tomberont. Jacques 5, 7 à 11, Joël 2, 23, Ésaïe 44, 3, Zacharie 10, 1. Alors la puissance de Dieu sera manifestée. Et comme pour Job, qui pria pour ses amis qu'il avait accusés, Job 42, 10, une restauration en double mesure de tout ce que Dieu a donné à l'Église au commencement aura lieu. Seul l'amour parfait est le lien de la perfection. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, 14. L'amour parfait, envers le Rédempteur, envers les rachetés, envers chaque parole de Dieu, ainsi que la foi véritable et vivante envers chaque promesse de Dieu. Quand nous serons tous remplis du Saint-Esprit, comme dans Actes 2, et comme dans l'Église primitive, alors nous pourrons dire réellement, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5, 5. Un message théorique qu'on interprète de différentes façons ne sert à rien. Seulement lorsque tout est vraiment ramené dans l'ordre divin, s'applique alors. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, Romains 8, 14. Quand l'époux vient réellement, alors son « cri de réveil » retentit premièrement pour tous ceux qui sont morts en Christ et ensuite. Tous ceux qui vivent en Christ seront transformés et seront tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur dans sa sainte et éternelle parole. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Le retour du Seigneur sera réel, tout comme son ascension fut réelle. Acte 1, 11b. Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La résurrection des morts en Christ sera réelle. 1 Corinthiens 15, 42 à 44. La transmutation de notre corps sera réelle. 1 Corinthiens 15, 54. L'enlèvement sera réel. 1 Thessaloniciens 4, 17. Le festin des noces sera réel. Apocalypse 19, 7. Tout sera réel, le millénium aussi, Apocalypse 20, et finalement les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Apocalypse 21. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20. Ne rien ajouter à la parole. Le ministère de frère Branham fut aussi important que le ministère de Moïse, de Jean-Baptiste et de l'apôtre Paul, en relation avec l'histoire du salut. La parole de Dieu annoncée par les messagers de Dieu nous a été transmise, et c'est ce que nous prêchons, car seule la parole demeure éternellement, 1 Pierre 1, 25. Dans 2 Pierre 3, 14 à 18, l'apôtre Pierre exhorte les croyants, en vue du retour promis, à s'appliquer à être trouvés sans tache et irréprochables. Il se réfère également aux épîtres de Paul, soulignant toutefois qu'il s'y trouve des choses difficiles à comprendre. Nous avons reconnu que l'importance du message biblique ne sont pas les déclarations difficiles à comprendre, comme autrefois celles de Paul, auxquelles Pierre se réfère dans 2 Pierre 3, 16, ou de celles de frère Branham, qui était dans une grande attente de l'action finale de Dieu. Tout comme autrefois, il y a aujourd'hui aussi de telles personnes qui sortent de leur contexte les déclarations de frère Branham et qui en font leur propre fausse doctrine. Verset 16. L'instruction que Paul donna à son fidèle compagnon Timothée, dans 2 Timothée 4, a été donnée par le Seigneur lui-même à frère Branham en 1933, dans une vision. Tout véritable serviteur de Dieu prendra ses paroles à cœur. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le Seigneur m'a aussi ordonné de lire 2 Timothée 4, en février 1980 à Marseille, en France. Le soir d'avant, on m'avait posé pour la première fois la question sur la signification des sept tonnerres dans Apocalypse 10. Je n'avais pas la réponse à cette question. En lisant 2 Timothée 4, j'ai tout de suite compris pourquoi j'avais dû lire ce texte. Je ne peux et je ne dois prêcher et enseigner que la parole et je ne peux pas et ne dois pas participer aux interprétations. Un compromis est impossible pour moi, cela est exclu. Quiconque est effectivement appelé de Dieu prendra à cœur l'exhortation si pressante que Paul a adressée à Timothée, et la mettra en pratique. Je t'en conjure devant Dieu. Prêche la parole. Ce qui n'est pas écrit dans la parole n'est pas destiné à la prédication de l'Évangile éternel. Et celui qui prêche quelque chose qui n'est pas biblique, même s'il la présente comme une révélation, s'attire la malédiction. Galates 1, 8, même si cela viendrait d'un ange du ciel. L'apôtre Jean dut nous donner cet avertissement très sérieux. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Tous ceux qui gardent uniquement ce qui est écrit sont appelés bienheureux. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Apocalypse 1, 3. Dieu pense ce qu'il dit et dit ce qu'il pense. Il a été dit au prophète Daniel, toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Daniel 12, 4. Nous sommes à la fin des temps, le livre scellé est ouvert et tout son contenu a été révélé. Que Dieu soit remercié, Rien de cela ne peut plus être tenu secret, car, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Apocalypse 5, 5. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Apocalypse 22, 10. Au chapitre 5, le livre était encore scellé. Le plan du salut divin nous a été exposé en détail dans la parole. Nous pouvons mettre à leur place les sept anges des églises, Apocalypse 2 et 3, les quatre anges qui sont liés sur l'Euphrate, annonçant les jugements, Apocalypse 9, et aussi les sept anges sonnant de la trompette, Apocalypse 8, 11. Pour nous, les différents contextes sont clairs, que ce soit lorsque le Seigneur descend en tant qu'ange de l'Alliance, Apocalypse 10, ou quand les deux prophètes apparaissent, Apocalypse 11, ou en ce qui concerne les sept anges avec les coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 16. L'entière révélation de tous les événements, en effet, nous est révélée par grâce et nous a été présentée dans le contexte correct, d'une manière si compréhensive, comme cela ne s'est jamais produit dans aucun autre âge précédent. Mais il faut toujours répéter, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est question maintenant de l'appel à sortir et de la préparation de l'Église et épouse. Même si nous connaissions tous les mystères, mais que nous n'avons pas l'amour véritable pour la parole, envers chaque parole, alors nous ne pouvons pas être prêts, ni aimer son avènement. C'est la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Nous nous trouvons vraiment à la fin du temps de la fin, ce dont il est question maintenant, c'est la pleine restauration conforme à la parole, laquelle doit avoir lieu avant le retour de notre bien-aimé Seigneur et Époux. Les élus restent attachés à la parole jusqu'à la fin, et ils ne peuvent être séduits par aucune interprétation. Ils croient que le véritable message, celui qui est fondé uniquement sur les saintes Écritures, précède la seconde venue de Christ. Et ils remercieront encore le Seigneur dans l'éternité pour le ministère prophétique de frère Branham, et pour la mise en place de tous les événements dans le plan de l'histoire du salut. C'est à eux que s'adresse la béatitude. Bienheureux sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il y a de nombreuses questions qui me sont parvenues, auxquelles il faudrait répondre. Les emails s'accumulent, dans l'un, il y a 5 questions, dans le suivant 8, et dans un autre 20. Le nombre de questions auxquelles je devrais répondre arrive jusqu'à 45 pour un particulier. Tous désirent recevoir la clarté sur des citations de frère Branham. Je vous prie de bien vouloir comprendre qu'il m'est impossible de faire suite à ces demandes. En ce qui concerne les sujets bibliques, je les ai déjà tous traités dans mes nombreuses publications, en les éclairant par les Écritures. Cela est aussi valable concernant le ministère prophétique extraordinaire et infaillible de frère Branham. Le mandat que le Seigneur m'a donné le 2 avril 1962, et qui a été confirmé par le prophète le 3 décembre 1962, en présence de deux témoins, frère Woods et frère Sotman, est de prêcher la parole et de distribuer la nourriture qui a été emmagasinée. À cause des élus, j'évoque une fois encore, que le dimanche 19 septembre 1976, le Seigneur s'adressa à moi d'une voix puissante par ces paroles. « Mon serviteur, je t'ai choisi selon Matthieu 24, 45 à 47, afin de distribuer la nourriture. » C'est aussi vrai que Dieu est vivant. C'est lui-même qui déjà dans Amos 8, 11, a prédit la fin d'entendre sa parole, et l'homme spirituel vit de chaque parole de Dieu. Notre Rédempteur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, 34. Par Paul, il dit à chaque serviteur, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. » 1 Timothée 4, 6. Toutefois 2 Timothée 4 devait aussi s'accomplir à ce propos, à savoir que le temps viendrait où beaucoup ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est pourquoi, dans Matthieu 24, 48 à 50, il est aussi parlé d'un méchant serviteur, qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir. » Verset 48. Comme le Fils de l'homme qui sème en premier la bonne semence, ainsi font également tous ceux qui l'envoient. Matthieu 13. Après, l'ennemi se faufile toujours, et sème la mauvaise semence, l'ivraie, les interprétations. Un serviteur fidèle et prudent ne sème que la semence de la parole et distribue la nourriture spirituelle. Un méchant serviteur sème des interprétations personnelles. Tous ceux qui sont nés de Dieu croient et se réjouissent de ce que le Seigneur Jésus lui-même a donné le mandat pour ce temps, de prêcher la parole. On ne pourra jamais insister assez, celui que Dieu envoie prêche uniquement la parole de Dieu, et celui qui est de Dieu n'écoutera que la parole de Dieu. 1 Jean 4, 6, et non pas des fables. 2 Timothée 4, 4. Paul écrivit, « Mais nous nous rendons recommandables, à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. » 2 Corinthiens 6, 4 à 8. Nous lisons, dans 1 Pierre 4 depuis le verset 12, que les croyants doivent parfois passer par des épreuves, semblables à une fournaise, mais que nous avons part ainsi aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 13b. Notre Rédempteur aussi a supporté la calomnie depuis sa naissance jusqu'à son ascension. Les scribes lui reprochaient d'être né de manière illégitime, Jean 8, 41, d'être possédé, Jean 10, 20, d'être en relation avec Béelzébul, Luc 11, 15, d'être un imposteur, Matthieu 27, 63, et même un malfaiteur, Jean 18, 30. Il supporta toutes les infamies et même sur la croix, on se moqua de lui. Mais au matin de Pâques, il sortit de la tombe en tant que vainqueur du diable, de la mort et de l'enfer. Et il put proclamer, « Il m'a été donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est monté au ciel avec des cris de triomphe. » Psaume 47, 6, Psaume 68, 19, Luc 24, 50 à 53. Acte 1, 9 à 11, et il reviendra avec grande puissance et gloire. Tout comme il en a été pour le Seigneur, ainsi en est-il pour ses serviteurs. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, 20. Il a dit également, bienheureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront. Lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Luc 6, 22. Mais tout autant s'accomplira. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte les gerbes. Psaume 126. Quand le Seigneur se manifestera en gloire, à son retour, nous aussi nous nous réjouirons et serons dans l'allégresse. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. 1 Pierre 1, 8. Maintenant, nous portons les outrages à cause de son nom, mais quand il viendra, nous nous réjouirons et serons dans l'allégresse et nous recevrons la couronne de la gloire. 1 Pierre 5, 4. Il vint la première fois pour ôter nos péchés. Il viendra une seconde fois pour tous ceux qui l'attendent. Hébreux 9, 28. Pour tous ceux qui aiment son avènement. 2 Timothée 4, 8, et pour tous ceux qui sont prêts. Matthieu 25, 10. L'apôtre Jean nous encourage. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 2, 28. 1 Jean 3, 2. Que se passe-t-il lorsque le Seigneur rugit comme un lion? Disons-le encore une fois, afin que le dernier aussi comprenne. Celui qui croit comme disent les saintes Écritures recevra la révélation des versets de la Bible correspondant à chaque sujet. Dans Apocalypse 10, le Seigneur descend en tant que l'ange de l'Alliance avec le livre ouvert. Il pose ses pieds sur la mer et sur la terre et crie d'une voix forte, comme un lion qui rugit. La parole clé dans ce contexte est « rugit ». Dans la prédication, La Brèche, du 17 mars 1963, frère Branham lut Apocalypse 10, 1. Et il dit tout de suite après, « Si vous l'avez observé, c'est Christ. » Dans l'Ancien Testament il est appelé l'ange de l'Alliance. Il vient alors directement vers les Juifs, car l'Église est achevée. L'Église a été enlevée. C'est l'accomplissement de la seconde partie de Malachie 3, 1. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Ce qui se passera avec les croyants israélites a aussi déjà été prédit par la parole prophétique. Alors s'accomplit. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Joël 3, 16. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Osée 11, 10. Il dit, de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Amos 1, 2. Ce n'est qu'à l'instant où il rugit comme un lion que le moment est là pour que la voix des sept tonnerres retentisse. Apocalypse 10, 3. Alors que Jean voulut écrire ce qui avait été dit, une voix venant du ciel lui dit. Celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Verset 4. Que Dieu veuille accorder à tous une sainte crainte, afin de respecter cela, car c'est réellement, ainsi dit le Seigneur. L'ange de l'Alliance, qui met son pied sur la terre et sur la mer et qui rugit comme un lion, lève alors sa main vers le ciel et jure par celui qui vit éternellement, qu'il n'y aura plus de délai. Dans le livre du prophète Daniel, chapitre 12, 7, il est question de ce serment avec des détails du temps plus précis. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Dans la parole prophétique, il nous est dit très clairement qu'il y aura encore 3 ans et demi à partir du moment où le serment est fait jusqu'à ce que tout soit accompli, dans la dernière période. Dans Daniel 7, 25, nous lisons également au sujet des 3 ans et demi, en relation avec Israël, et dans Apocalypse 12, 14, nous retrouvons un temps, des temps, et la moitié d'un temps, comme dans Daniel 12, 7. Il est évident qu'il n'est plus question de l'Église épouse qui a été enlevée, mais qu'il est question du temps de tribulation et d'Israël. Il a été dit au prophète Daniel. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel 10, 14. Avec tous les versets bibliques correspondants, il n'est pas difficile de placer également ce grand événement de manière correcte, c'est-à-dire biblique. Puisque cela ne concerne plus l'Église épouse mais le peuple d'Israël, nous n'avons pas besoin de nous soucier des événements qui s'y rapportent. Le Seigneur prendra soin de son peuple jusqu'à la fin. C'est la fin des temps, sa venue est proche. Dans Matthieu 24, dans Marc 13, et dans Luc 21, le Seigneur a aussi parlé des développements pendant la période précédant le retour de Christ. Il a comparé cette génération avec le temps de Noé, Genèse, chapitre 6 à 9, et avec la condition de Sodome et de Gomorre. Genèse 19, Luc 17. Il en serait de même qu'il en était autrefois, et c'est vraiment le cas. La parole de Dieu et l'ordre de la création en général sont considérés comme démodés par la société moderne. Cela est valable pour les couples, la famille et pour d'autres valeurs traditionnelles. L'apôtre Paul, qui est notamment la cible de critiques des théologiens, a dû décrire la situation générale dans Romains 1, 24 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes. Abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes. Ceci aussi s'accomplit devant nos yeux et nos oreilles. Les églises aussi s'adaptent comme tous les autres à l'esprit du temps. Dernièrement, on pouvait lire en gros titre. Volte-face de l'Église catholique. Le Vatican s'approche des homosexuels et des lesbiennes. Explication. Les homosexuels peuvent enrichir la communauté chrétienne par leurs talents et leurs qualités. Naturellement, chacun a le droit de vivre de la manière qu'il juge bon et personne ne doit être méprisé, voire être sujet à la discrimination à cause de sa manière de vivre. La dignité de tous les humains est, et reste, un sujet inviolable. Toutefois, pour celui qui croit Dieu et qui est réellement né de nouveau par l'Esprit, c'est encore aujourd'hui la parole de Dieu qui est le talon de mesure. Celui qui appartient à la vraie Église du Seigneur respecte l'ordre de la création de Dieu, dans le couple et dans la famille, tout autant que l'ordre de l'Église et du plan du salut qu'il nous a transmis dans sa parole, et il se laisse insérer dans l'ordre divin, aussi bien dans le domaine naturel que dans le domaine spirituel. Mais avant tout, il doit arriver ce qui a été proclamé à tout l'auditoire lors de la première prédication, il y a plus de 2000 ans, à la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2. La prédication aujourd'hui doit être en accord avec la première. Et pour les croyants du dernier âge de l'Église, les instructions sont exactement les mêmes que pour les croyants du premier âge. Celui qui ne se laisse pas convaincre par le Saint-Esprit et qui n'accepte pas la rédemption offerte, ne se laissera pas non plus conduire à la repentance. Personne ne peut se sauver soi-même, chacun doit invoquer le nom du Seigneur et Sauveur, implorer le pardon et la délivrance par la prière, et peut ensuite expérimenter, encore aujourd'hui, la réalisation de ce qui suit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13, « Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens 6, 2. Par la grâce de Dieu, la vie des croyants est ramenée en conformité avec la parole de Dieu, aussi bien dans le domaine spirituel que naturel. Car seul celui qui est dans la parole peut être aussi dans la volonté de Dieu, et ce n'est que de cette manière que nous pouvons marcher avec Dieu, comme le fit déjà Enoch avant d'être enlevé. Hébreux 11, 5. C'est ainsi que le bon plaisir de Dieu reposera sur nous et telle une épouse parfaite, nous entrerons au repas des noces avec l'époux. Amen. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 27. De nombreux voyages missionnaires sont de nouveau planifiés pour les mois à venir. Je vous demande de penser à moi dans vos prières. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck. Une photo d'une réunion à Cuba en janvier 2015. Aussi bien, à Havane qu'à Holguín, les croyants sont venus de partout pour écouter la parole. Des prédicateurs sont même venus de Santiago de Cuba pour assister aux réunions. C'est une grâce de pouvoir expérimenter en réalité comment le dernier message parvient à tous les enfants de Dieu dans toutes les nations.